Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot. This is why, this is why, this is why I'm hot, hot.
France Culture, 19h, passé d'une minute. Bienvenue donc dans Soft Power, magazine des industries créatives numériques, en direct jusqu'à 20h depuis le studio numéro 1 au 8e étage de la maison de la radio. Les données sont l'or, dit-on, du 21e siècle. Les données sont au cœur de l'économie numérique. Vous savez, toutes ces données que vous laissez derrière vous sans toujours le savoir lorsque vous êtes sur Facebook, lorsque vous faites une recherche sur Google ou naviguez sur n'importe quel site ou réseau social. Ces données qui vous échappent et qui, grâce à de petits mouchards qu'on appelle les cookies, parlent et parlent de vous. Quelle politique des données? Comment les conserver en France ou dans les entreprises françaises? Au moment où se joue la bataille mondiale des données, comment collecte-t-on ces données de masse et comment les analyse-t-on ensuite pour les faire parler? De ces sujets très techniques, nous allons tenter de parler ce soir et de les expliquer simplement avec vous. Alain Lévy, vous êtes entrepreneur et le fondateur de Weborama, société spécialisée dans l'analyse des données, justement. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Quels sont les métiers de Weborama?
On a trois métiers chez Weborama. Le premier, c'est le développement de toutes les technologies qui permettent de collecter, organiser, activer les données. Le second, c'est un métier de data science, c'est-à-dire tous les algorithmes qui permettent de comprendre les relations entre les différentes données. Le troisième, c'est une expertise humaine qui nous permet d'accompagner nos clients.
Voilà, donc il va falloir faire preuve de pédagogie ce soir, mais on va y arriver sur ce secteur sensible des données. Mission donc ce soir sur les cookies, les données, le data mining. Restez à l'écoute, parce que si vous partez, ne vous inquiétez pas, on le saura. Toujours au sommaire de cette émission, dans un instant, l'actualité du numérique et des médias avec l'arrivée en France de la version de Mashable dans notre pays ce mois-ci, en partenariat avec France 24. Pour en parler, je reçois Sylvain Attal, rédacteur en chef de ce nouveau site et par ailleurs directeur adjoint de France 24 en charge du numérique. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
19h10, l'alphabet numérique, notre séquence décryptage du web. Ce soir, le cloud souverain, encore un mot anglais, avec Emmanuel Paquette, journaliste à L'Express. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Frédéric.
C'est quoi le cloud et le cloud souverain?
Le cloud, c'est devenir locataire de certains logiciels et on envoie les données à des endroits qui ne sont plus l'entreprise ou dans votre ordinateur pour les particuliers.
Par exemple chez Amazon.
Chez Amazon, Microsoft, HP, IBM. Donc ça, c'est la partie cloud. Et souverain, et ben c'est qu'on essaye de faire en sorte que les serveurs qui accueillent ces données, donc qui là où sont logées toutes vos informations personnelles, soient sur le territoire, si possible français, sous législation française, et tout ça donc sous la protection d'un juge français.
Voilà, deux sujets liés, le cloud souverain et les données. C'est Soft Power ce soir, au sommaire donc de cette émission. On écoutera également Massive Attack et José González. On parlera également en fin d'émission d'un livre, d'un roman qui vient de paraître en France ce vendredi. Il est signé Dave Eggers, Le Cercle, The Circle en anglais. Tout cela dans Soft Power jusqu'à 20h, à suivre sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist de Deezer ainsi que sur Instagram, Medium, Vine, Facebook en podcast et sur France Culture en direct. Soft Power jusqu'à 20h, l'actualité pour commencer cette émission comme chaque semaine. Avec ce soir Sylvain Attal, directeur adjoint de France 24, en charge du numérique et rédacteur en chef de la version française du site Mashable qui vient d'être lancé ce mois-ci, au mois de mars. Alors avant de parler de la version française, commençons par la version américaine, Sylvain Attal, de ce site Mashable. D'ailleurs, ça veut dire quoi d'abord? Parce que je ne sais pas si on cherche à le traduire, ça, en gros, c'est faire de la purée, donc purée d'infos.
Ça donne l'idée qu'il y a un mélange de genres, enfin en tout cas c'est ça, enfin, c'est comme ça que moi je le comprends, hein. C'est ma version à moi.
C'est-à-dire à la fois de l'information et de l'entertainment, de l'infotainment.
Oui, un mélange de plusieurs types d'informations différentes qui peuvent être à la fois ludiques, divertissantes et aussi...
Sérieuses.
Là j'aime pas trop le mot sérieux parce que ça... Oui, tout le monde comprend si on dit sérieux.
En tout cas, de l'info et du divertissement à la fois.
Ouais.
C'est un site créé d'ailleurs par des Anglais, mais aux États-Unis.
C'était créé par un Écossais.
Exactement.
Il faut faire attention, parce que c'est pas pareil.
UK. Hein. Ouais.
Pete Cashmore, qui était un jeune brillant activiste du web qui a lancé ça à 19 ans dans sa chambre à coucher, pas dans son garage mais dans sa chambre à coucher. C'était un blog très geek quoi, c'était qui parlait uniquement de nouvelles techno, ouais. Voilà. Bon. Et puis petit à petit, il a évolué, il a changé, il y a eu un tournant avec il y a à peu près deux ans et demi, avec l'arrivée comme rédacteur en chef d'un vétéran, d'un poids lourd du journalisme américain qui s'appelle Jim Roberts, qui était le responsable de l'information digitale au New York Times, parce qu'ils avaient dans l'idée de devenir un acteur central de l'information sur le web, c'est-à-dire de garder un peu cet aspect culture numérique, génération connectée, mais d'ajouter des contenus sérieux.
Parce qu'en général, quand on va sur Mashable, c'est pour savoir un peu ce qui se passe sur le web, au sens quand même assez technologique du terme, et en même temps, des contenus qui vont autour. Comment vous définiriez le Mashable américain à l'origine?
Ben, c'est devenu plutôt un média de génération, c'est-à-dire qui cible effectivement cette génération qui est née avec le numérique et qui aujourd'hui vit en palpitant avec les réseaux sociaux et avec son smartphone, en gros.
Vous, hein, quoi?
Ben moi je m'y suis mis, oui, effectivement, je suis pas un digital native, mais je m'y suis mis effectivement par la force des choses. Mais voilà, donc il voit tout à travers ce prisme-là, mais qui peut s'intéresser aussi bien à une info divertissante sur Taylor Swift par exemple, que sur parce qu'il y a une question d'offre aussi, si on lui propose effectivement cette information-là, ce qui est une information par exemple internationale, mondiale, géopolitique. C'est ce qui s'est passé avec Mashable. Mashable est un média de partage, c'est-à-dire au fond, il parle beaucoup plus, ils essaient beaucoup plus d'avoir un taux de partage d'informations, parce que on est quand même dans l'ère des réseaux sociaux, que de clics, que de consommation comme ça. Ils veulent absolument engager le lecteur.
Donc plus le modèle Facebook que le modèle Google d'une certaine manière.
Oui, absolument. Le modèle en tout cas réseaux sociaux.
Alors donc ça arrive en France, on l'a dit depuis quelques semaines, hein, depuis le mois de mars. En quoi la version française, elle a sa propre singularité? En quoi il y a des contenus traduits ou créé en propre avec France 24, puisque c'est une association France 24 et Mashable?
Elle a sa singularité parce qu'elle est fabriquée, elle est made in France complètement. Le site a été développé en France et il est réalisé tous les jours par une équipe de journalistes français.
Ceux de France 24 ou
non? Non, c'est une équipe
dédiée
qu'on a recrutée spécialement pour faire ce site. Donc c'est vrai qu'on traduit un certain nombre de contenus et on les adapte en fait. C'est pour ça que moi j'aime plutôt que version, je préfère une déclinaison au fond de la.
On vous laisse le déclinaison. Voilà. Allez.
On décline plutôt que de faire une
décline,
version.
Décline, ça peut aussi voilà. Poser quelque.
C'est-à-dire qu'on adapte un peu effectivement, mais on a et je suis assez heureusement surpris de voir qu'on a beaucoup dès le premier mois de contenu propre. Et puis, il y a une part de contenu de France 24 pour tout ce qui est actualité monde. Et c'était, je crois, pour eux, l'intérêt du partenariat pour Mashable aux États-Unis.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors, ce rapprochement a de quoi surprendre, de deux points de vue. Le premier, c'est un point de vue, entre guillemets, capitalistique. C'est une entreprise privée qui vient de lever 15 millions de dollars, qui s'associe avec une entreprise publique financée par le public français, enfin, par le citoyen français. Et donc cette entreprise-là qui aujourd'hui vient de faire une levée de 15 millions avec CNN au capital. Donc on voit l'émanation du paysage américain au travers de ce site, alors que justement France 24, c'est l'émanation de la France et de la culture française à l'international.
France Média Monde, c'est-à-dire RFI, Monte Carlo.
Donc on voit CNN entrer capitalistiquement dans un partenaire de France 24 censé faire rayonner la France à
l'international. Il est un peu old school quand même là, Emmanuel Paquette, non?
Non, il y a raison. La surprise est normale, on a nous-mêmes étaient les premiers surpris quand ils nous ont proposé de faire ça avec eux. C'est-à-dire qu'on s'est dit...
Vous n'êtes pas allé les chercher, c'est eux qui sont venus.
C'est-à-dire qu'on est allé les chercher, mais pour complètement autre chose, pour valoriser un peu nos contenus du site anglophone.
Et ils vous ont dit, banco, on va le faire ensemble.
Peut-être ça, ils ont dit peut-être, mais on a une autre idée. On est dans une phase de développement.
On ne connaît personne en France.
On voudrait faire ça avec un site français, on vous connaît. Jim Roberts connaissait bien France 24, il est assez très francophile même.
Aux États-Unis, tout le monde regarde France 24, c'est bien
tout
connu.
Tout le monde, j'aimerais bien, mais on est connu, effectivement, la preuve. Donc la surprise, elle est normale. Maintenant, sur le lien, il n'y a pas de vrai lien capitalistique parce que ça, c'était leur demande aussi, et puis nous, ça nous convenait assez bien, effectivement, à culture service public, c'est qu'on a fait ça sous forme de partenariat. On fait ça, on n'a pas créé une filiale commune, on n'est pas au bilan de Mashable, voilà. Bon, c'est un partenariat qui fait qu'on va supporter les frais, les bénéfices éventuels, s'il y en a.
Alors, autre critique qui a été faite, je pense notamment Johan Fnagel, le directeur de Libération, et puis bien édito assez critique sur cette arrivée de Mashable en France, parce qu'il jugeait comme étant une concurrence déloyale finalement par rapport aux autres sites français qui ne peuvent pas s'appuyer sur, pour une part, des ressources publiques, celles de France 24.
On s'est expliqué avec Anne là-dessus.
Oui, même sur Twitter, on a lu les échanges.
Mais après, on s'est expliqué en direct autour d'un café. Moi, je pense qu'il n'y a pas... Cette notion de concurrence me paraît un peu déplacée s'agissant du web. Je pense que au fond, c'est un peu gagnant-gagnant pour tout le monde. Et surtout, cette offre nouvelle, en fait, elle vise plutôt à avoir un lectorat qui allait peut-être assez peu sur ce type d'information avant et qui y viendra. C'est-à-dire que si on peut avoir une part de lectorat jeune qui est essentiellement passé jusqu'ici peut-être beaucoup de temps sur des sites un peu type Melty ou tout simplement sur YouTube à regarder des vidéos virales et qui peuvent aller sur un site qui va leur proposer une information mondiale, je pense qu'on les aura attirés vers cette consommation d'information et qu'on aura pris ce lectorat ou ce public plutôt, puisque c'est pas que du lectorat, qu'on aura pris ce public à personne et en particulier pas à Libération. Donc voilà, je le sens pas comme ça. Je vois pas comme un gâteau. Voilà.
Nous sommes avec Sylvain Attal, directeur adjoint de France 24, en charge du numérique, et qui fait partie de l'équipe. Il en est même le rédacteur en chef qui a lancé la version française du site américain Mashable. Une question d'Emmanuel Paquette de l'Express.
Oui, en fait, je reprends ma première question, puisque c'était une question en deux temps. Le deuxième temps, c'était sur la ligne éditoriale. Comment faire cohabiter sous la marque France 24, puisqu'elle apparaît sur le site aujourd'hui. C'est la couleur France 24. Une ligne éditoriale qui n'a rien à voir avec France 24. Par exemple, on trouve des articles du type les serveurs écossais qui portent une arme sous leur kilt, par exemple, ou des mini donuts sont arrivés, vous pouvez les manger avec une petite pince à épiler. Ça, on est bien loin de l'univers France 24, et pourtant, c'est logé sous la même couleur, France 24, sur le même lieu.
Alors, c'est pratiquement la même couleur que ma chaîne.
Là, on est à la radio, mais vous ne voyez pas l'air complètement de notre invité Sylvain Attal, complètement désespéré par la question d'Emmanuel Paquette.
Je l'ai déjà entendu. Non, plusieurs réponses. D'abord, si c'était pour refaire France 24, un site qui concurrence France 24, je ne vois pas l'intérêt. C'était effectivement pour faire un autre site avec une autre ligne éditoriale. Que ce soit à l'intérieur de France 24 est autre chose. D'abord, ça se justifie par le fait qu'il y a un apport de contenu de France 24 sur l'actualité géopolitique internationale. Mais après, il y a une équipe dédiée qui est à part, qui définit sa propre ligne éditoriale et qui est plus proche de la ligne éditoriale du Mashable américain, mais adaptée à un public francophone. Voilà.
Donc pas de schizophrénie.
Ah non, pas du tout.
Non, vous allez bien.
Oui, tout à fait. Oui.
Comment est-ce que vous décidez des sujets à traiter vous pensez en fonction de l'audience qui est 20-35 ans?
Moi, je me repose beaucoup sur l'équipe parce que j'ai choisi une équipe de jeunes journalistes qui sont, comme vous l'avez fait remarquer Frédéric, un peu malicieusement, beaucoup plus digital natifs que moi, donc qui a une veille d'information un peu différente de la mienne, effectivement, à la base. Donc, ils ont leur goût, ils sont très curieux, donc ils sont force de proposition. J'ai choisi justement pour ça, pour que ce soit pas simplement des gens qui remplissent des cases. Donc, ils apportent des idées, ils en apportent beaucoup. Ils sont très en prise avec cette culture numérique, avec cette forme de divertissement. Ils ont leur star, ils ont leur YouTuber favori, voilà. Donc les conférences de rédaction sont très gaies parce qu'elles elles sont d'abord très marrantes. Tout le monde rigole beaucoup. Et voilà, et il en sort des sujets qui, moi, m'intéresse, me passionne, donc je dis oui, voilà, c'est comme dans n'importe quelle rédaction. Au fond,
si on regarde le site cet après-midi, par exemple, aujourd'hui, en début d'après-midi, on pouvait voir en une de Mashable un article sur la réouverture de l'aéroport de Bruxelles, 12 jours après les attentats, là c'est du France 24, un entretien avec l'écrivain turc et prix Nobel de littérature Orhan Pamuk, là c'est un peu du France Culture, un article sur la perche à selfie volante sur une photo publiée par Leonardo DiCaprio sur son compte Instagram. Donc trois quatre types d'articles. Ma question, peut-être moins malicieusement, est-ce que c'est aussi une manière pour France 24 d'aller sur des secteurs où elle n'a pas forcément de légitimité, de public? Et est-ce qu'au fond, une chaîne comme France 24, qui a un certain succès d'audience important par rapport à il y a quelques années, mais malgré tout reste une petite chaîne à l'échelle de l'audiovisuel mondial, est-ce que c'est aussi peut-être proposer des évolutions davantage sur le divertissement, l'entertainment, pour aussi accroître l'audience de chaînes comme
alors,
celle-ci.
Alors, je dirais petite chaîne peut-être à l'image de l'audiovisuel français.
Par rapport mais à sur CNN, par rapport à la BBC.
Mais,
par
quand même assez, mais comme vous l'avez remarqué, vous l'avez dit tout à l'heure, assez connu quand même à l'international. Mais peut-être qu'il souffre peut-être parfois d'un déficit de...
C'est encore une chaîne jeune. C'est pas Al Jazeera, c'est même pas l'Arabia, etc. Ouais.
Non, c'est vrai que l'intérêt pour France 24, si vous voulez parler deux minutes de France 24, c'est effectivement d'aller à la conquête d'un lectorat plus jeune, parce que comme toute chaîne de télévision... Alors les sites sont moins marqués par ça parce que sur Internet le public est plus jeune, mais quand même c'est vrai qu'on a un public qui est plus âgé et que ce partenariat Mashable France 24 a effectivement cet intérêt-là et on voit tout de suite au bout de quelques semaines que déjà on a deux tiers de lecteurs qui ont moins de 35 ans, donc ça veut dire qu'on les touche.
Voilà. Emmanuel Paquette pour finir.
Mais du coup, en parlant de cible que vous voulez toucher, c'est-à-dire rajeunir l'audience du site, c'est pas un peu... Parce que normalement, dans les médias, on est dans une position d'offre. On offre une proposition et en face, il y a un lecteur éventuellement qui arrive. Vous avez la démarche inverse, c'est-à-dire faut regarder les manques qui existent et vous allez remplir les vides qui existent en termes de demande. Donc on est quand même dans une attitude plutôt marketing pour le coup. Et d'inversion de ce qu'on propose généralement en médias.
Je crois pas. Je pense que justement, on offre justement une information qui existe ailleurs, sur des sites très spécialisés, sur des sites qui ne font que ça, qui font
on la rend plus grand public du coup.
Et on la rend plus grand public en l'élargissant. Vous avez dit tout à l'heure, on a parlé aujourd'hui de la réouverture de l'aéroport de Bruxelles, donc un sujet pas seulement France 24, mais d'actualité du jour. Donc on fait le pari au fond que on peut offrir des sujets qui vont être naturellement ceux de cette génération-là parce que naturellement ils vont la consommer, mais aussi leur offrir sur la même plateforme une information qui ne serait peut-être pas forcément à aller chercher parce qu'ils n'iront pas sur un site directement sur Le Monde, par exemple. Mais de toute façon, maintenant, on sait très bien qu'on ne faut plus raisonner en termes de « ils vont sur notre site, ils vont sur un autre site ».
Oui, puisque c'est via les réseaux sociaux que tout ça se passe. Est-ce qu'on fait des renvois, par exemple, de France 24 vers Mashable et réciproquement ?
Oui, c'est aussi évidemment un des intérêts, c'est qu'on a une communauté sur France 24 qui est très importante. C'est le premier média francophone sur Facebook, France 24, à l'international. Donc on a une communauté qui est importante et effectivement on va jouer dans l'aide que France 24 peut apporter au démarrage d'un site à partir de rien avec une marque très peu connue au fond en France. C'est qu'on peut effectivement faire des posts croisés, utiliser les différentes
communautés. Mais est-ce que c'est pas finalement ça la clé, ce mot que vous avez prononcé, communauté, c'est-à-dire qu'on a la communauté France 24, on a la communauté Mashable et vous allez les faire peut-être grossir l'une l'autre en s'agrégeant, s'associant
peut-être,
pour
c'est un peu
se renouveler aussi en termes d'audience, d'âge.
Ça peut jouer, mais en même temps c'est une question de balance parce qu'on ne veut pas évidemment avoir la même communauté que France 24, on veut avoir une communauté un peu différente, plus jeune, peut-être dans un premier temps plus européenne, mais en gardant quand même en arrière-plan le fait que la francophonie en Afrique, dans les pays du Maghreb, c'est très important, ça va se développer avec les progrès de l'électrification, de l'Internet, etc. Donc ça va devenir vraiment un marché très important dans quelques années. Donc oui, absolument. Mais je crois que c'est l'intérêt de ce partenariat et c'est pour ça que Mashable se tourne vers un partenaire français.
Bon, on vous souhaite bonne chance pour ce mariage finalement, merci. Un mariage à deux. France 24, Mashable, Sylvain Attal est directeur adjoint de France 24 en charge numérique, rédacteur en chef de la version française, donc de ce nouveau site, en tout cas dans sa version française, sortie ce mois-ci, Mashable. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Émission consacrée ce soir aux données, aux politiques des données. Dans un instant, on va parler du cloud souverain, sujet de soft power ce soir. Vous pouvez poser des questions, faire des commentaires ou réagir sur les réseaux sociaux. Hashtag soft power. Lost to lose where users you skinny, don't fuss, it kills the bricks. Roses you again where the pain still sticks on the grain lips. Sticking in your tongue, it's a hot red light, suck it in. I've been, you said. Le groupe légendaire Massive Attack, originaire de Bristol, n'avait plus trop fait parler de lui depuis plusieurs années et pas non plus d'album en studio depuis 6 ans. Mais les voici de retour avec ce mini-album sorti il y a quelques semaines avec 4 nouveaux titres en duo avec des artistes amis et associés. L'un des plus émouvants est peut-être ce Take It There que l'on écoutait à l'instant puisqu'il marque les retrouvailles du groupe avec le chanteur à la voix brisée Tricky, autrefois membre éminent du collectif. Massive Attack sera présent au festival Rock en Seine. On pourra les écouter sur les pelouses du domaine de Saint-Cloud, ce sera le 27 août prochain. Vous pouvez retrouver ce morceau et toute la playlist de Soft Power en allant sur notre page dédiée sur Deezer.
Soft Power, l'alphabet numérique.
L'alphabet numérique, notre séquence qui décrypte les internets autour des mots du web, de ses expressions, ses tendances ou ses évolutions. Alors ce soir, nous évoquons le cloud souverain avec vous, Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express. On va définir l'expression tout d'abord, l'expliquer ensuite et en débattre enfin. Donc cloud souverain, dans cloud souverain il y a c'est une évidence à la fois cloud et souverain, c'est en gros l'idée qu'à l'âge numérique nos données sont conservées dans des serveurs répartis un peu partout dans le monde, le fameux cloud qu'on ne doit peut-être plus traduire par les nuages parce qu'il est surtout sur Terre, pas dans le ciel, et que ces données sont donc souvent hébergées à l'étranger dans des serveurs physiques qui existent par Google, Facebook et beaucoup d'autres. Le cloud souverain, c'est donc retrouver une souveraineté sur ces serveurs et faire en sorte que nos données soient hébergées en France ou du moins sur des serveurs français. Emmanuel Paquette, je l'ai dit, vous êtes journaliste à l'Express, c'est donc le cloud souverain une priorité à la fois nationale mais aussi des pouvoirs publics français.
Oui, c'est une priorité qui est née sous le gouvernement Sarkozy. Donc à l'époque c'était François Fillon le Premier ministre qui a décidé en 2009 effectivement de financer 2 projets. À l'époque ça devait être un seul projet, le nom de code c'était Andromède, et qui a donné en fait naissance à 2 initiatives. L'une d'elles s'appelle CloudWatt.
Andromède, dès le départ on pouvait se dire que ça n'allait pas marcher.
Mais... parce que vous n'aimez pas la référence à la mythologie, mais... Et de l'autre côté, Numergy, et dans chacune des deux initiatives, des opérateurs télécoms. Donc dans le premier, Orange, qui était le leader de ce groupe. Et dans le deuxième, Numergy, c'était SFR qui mettait en avant cette infrastructure. L'idée sous-jacente, c'était de dire que en fait, avec le Patriot Act à l'américaine depuis les attentats du 11 septembre, aujourd'hui, la justice américaine peut demander des données à des entreprises américaines un peu partout sur la planète, et les entreprises américaines ont nécessairement obligation de donner les données que la justice peut lui demander. Et donc l'idée, c'est de dire, si on loge nos données personnelles ou les données d'entreprise dans des clouds américains, on sera sous juridiction américaine, même si cette société est sur le territoire français. Même si les serveurs sont logés à Paris, que ce soit à Paris, Amsterdam ou Londres, tout repartira directement aux États-Unis.
Donc il y a une priorité au nom de la patrie, un patriotisme économique, de faire en sorte, aussi pour protéger ces données, qu'elles soient hébergées par des entreprises françaises ou en tout cas sur des serveurs en France.
C'est ça, exactement, parce que certaines données sont pas vraiment sensibles. On peut considérer que vos photos ne sont pas vraiment sensibles, on peut les envoyer aux États-Unis.
Quoique,
ça peut encore se discuter. Mais là, les pouvoirs publics, depuis un certain temps, veulent mettre en place un système, par exemple, de santé numérique, dans lequel il y ait tout votre historique de santé, de votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Les impôts aussi, que vous pouvez payer bientôt entièrement numériquement via Internet, ça sera d'ailleurs une obligation d'ici peu. Et tout ça doit être hébergé, si possible, sur des serveurs français, pour pas que les administrations américaines puissent y avoir accès. Et donc, des serveurs logés en France, sous juridiction française et donc sous un juge français.
Alors il y a 2 projets français, vous l'avez dit, la question était celle de la localisation des données dans le cloud. Axel Lemaire, la secrétaire d'État chargée du numérique, a reconnu l'échec français dans ce domaine. On l'écoute.
Beaucoup de données sont stockées, de plus en plus hébergées dans ce cloud. Et la question se pose de la localisation des centres d'hébergement de ces données, puisque quand ils sont à l'étranger, notamment dehors de l'Union européenne, eh bien c'est ce droit étranger qui s'applique notamment le droit relatif à la protection des données personnelles. Est-ce qu'il faut pour autant imposer une solution technologique un peu par le haut ? Moi, je crois que l'innovation, elle ne se décrète pas. On a fait des tentatives en France de cloud souverain qui ont échoué. Elles ont pas, en tout cas, qui n'ont pas été probantes. Je crois plus, là, pour le coup, à la régulation par le droit, avec certaines obligations, notamment d'hébergement des données sensibles, par exemple les données médicales, sur notre territoire national ou européen.
À l'instant, Axelle Lemaire, la secrétaire d'État chargée du numérique au micro de notre confrère Patrick Cohen, c'était sur France Inter le 20 janvier dernier. Elle s'exprimait sur l'échec des tentatives de cloud souverain français et la nécessité, selon elle, de se limiter peut-être désormais à réguler le cloud par le droit. Aveu d'échec assez significatif, Emmanuel Paquette.
Oui, parce que ce qui devait être un peu l'Airbus des nouvelles technologies en Europe, finalement, s'est fracassé sur la réalité du numérique. On ne peut pas aujourd'hui demander à des gens d'utiliser des services ou des logiciels français, par exemple, si les Américains sont meilleurs. Là, en l'occurrence, c'était le cas. Il se trouve aussi qu'il y avait des initiatives franco-françaises qui existaient de longue date, qui ont peu apprécié le fait que les pouvoirs publics essayent de mettre en avant une solution mêlant public-privé, hein, des sociétés assez proches du gouvernement. On en parlait tout à l'heure, CloudWatt avec Orange, dont est actionnaire le gouvernement, Thales, dont est actionnaire le gouvernement. Et puis de l'autre côté, on avait donc dans Numergy SFR. Donc là, le gouvernement n'était pas présent capitalistiquement, mais c'est une société qui reste quand même proche des pouvoirs publics. Et puis Bull, à l'époque, qui maintenant est tombée donc, entre les mains d'Atos, qui elle aussi gravitait un peu autour des intérêts français.
Alors on voit que c'est très compliqué. Et ces deux projets français qui échouent, d'abord ça coûte combien aux contribuables français ou combien ça coûte en général? Et pourquoi est-ce que les deux échecs sont identiques et pourquoi ça a si mal fonctionné?
Alors c'est, sur les budgets, c'est difficile de savoir, puisque au départ, l'enveloppe était de 150 millions d'euros, donc en gros 75 millions d'euros pour chacune des deux initiatives.
Donc ça coûte aux contribuables français 150 millions d'euros?
Normalement, alors a priori, tout l'argent n'a pas été dépensé. Et il se trouve que Orange, d'un côté, donc au niveau de CloudWatt, a repris intégralement les 100% de la structure, et SFR, du côté Numergy, a repris également 100% de la structure. Donc aujourd'hui, les coûts sont supportés en direct par Orange d'un côté et SFR de l'autre. Donc ça, c'est sur le point des dépenses. Sur l'échec commercial, il faut savoir qu'au bout de 3 ans, les deux sociétés faisaient entre 1 million et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sur un secteur qui était en pleine croissance. Alors il faut voir qu'en face, ils s'attaquaient quand même à des mastodontes.
Et notamment Amazon, qui a plus d'un million de serveurs connectés à travers le monde.
Exactement, et avec des prix très très agressifs. Microsoft également, qui a des fermes de serveurs un peu partout sur la planète. IBM, HP, donc des sociétés puissantes, avec beaucoup de ressources, avec des logiciels propriétaires très forts, qui peuvent proposer en plus d'un système de cloud dans les nuages. Donc ils se sont trouvés démunis face à des mastodontes déjà en place, avec des infrastructures et une agressivité sur les prix qu'ils ne pouvaient pas nécessairement répliquer.
Mais Emmanuel Paquette, on a entendu ces dernières années le Brésil qui voulait reterritorialiser ses données, on l'a vu aussi en Turquie, c'est un débat qui existe à Prague, et bien sûr évidemment dans des pays comme la Russie, l'Iran, et d'une autre manière en Chine. Ça veut dire que reterritorialiser les données, sauf dans le cas du modèle chinois, c'est devenu impossible ?
Ben après, si vous n'y arrivez pas économiquement, c'est-à-dire à jouer le jeu des Américains ou à jouer contre les Américains...
Vous pouvez jouer
avec le droit et
la régulation.
C'est un peu
ce que laisse entendre Axelle Lemaire dans son entretien.
Oui, parce qu'au niveau de la Commission européenne, il y a ce qu'on appelle un paquet sur les données qui est en train d'être en préparation, justement pour voir un petit peu ce que vont devenir les données personnelles des utilisateurs en Europe. On attend de voir ce texte, qui devrait être transposé après dans tous les pays européens. Donc là, il y a une directive forte de l'Europe de ce point de vue-là. Et puis après, il y a au niveau national peut-être des correctifs au niveau de la loi qui peuvent être apportés dans certains secteurs dont parlait la ministre, la secrétaire d'État tout à l'heure, notamment dans le domaine de la santé ou de la défense, où là, on peut considérer que les données sont tellement importantes qu'elles doivent rester sur les territoires français. Et ça, on peut l'obliger par la loi.
Avec nous ce soir, Alain Lévy, fondateur de Weborama, société spécialisé dans l'analyse des données, justement, pour parler avec nous de la politique des données, de la bataille mondiale des données. Peut-être une réaction, monsieur, sur ce débat du cloud souverain français.
Oui, moi je pense que c'est un mauvais combat qui a été mené depuis le début. C'est-à-dire que aller chercher les plus grosses entreprises sur ce qu'elles ont de plus fort, c'était une erreur. Ça va nous amener d'ailleurs au sujet du livre tout à l'heure. Hein. Ces GAFA en face des gouvernements. Oui, Google, Amazon, Facebook, Apple.
Le livre, c'est Le Cercle de David Eggers.
Oui, Le Cercle, dont on va parler tout à l'heure. Voilà, on est parti sur des très mauvaises bases. Il me semble que le combat qu'il aurait fallu mener à l'époque, c'est le combat de l'innovation. Axel Lemaire l'a dit, ça ne se décrète pas, l'innovation elle existe. Il est tout à fait possible pour les entreprises françaises, et nous le proposons d'ailleurs, d'avoir un cloud local. Nous utilisons notre propre cloud sur des serveurs français, auprès de data centers internationaux, mais sur des data centers situés en France. Donc les solutions existent.
C'est pas mais il ne fallait pas inventer une usine à gaz.
Ben non, surtout en face de...
d'Amazon, voilà, ou de
quand
IBM.
On fait le tunnel sous la Manche, on est maître du timing, et si on est en retard, c'est pas très grave. Quand on est en face de Google, Facebook et Amazon, quand on est en retard, ben on loupe le coche complètement.
Alain Lévy, fondateur de Weborama, et Emmanuel Paquet, journaliste à l'Express, sur ce cloud souverain. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur les réseaux sociaux, mot-clé soft power. Vous pouvez également vous abonner au podcast L'Alphabet Numérique sur les sites franceculture.fr ainsi que sur iTunes. Et pour tous les anciens mots de l'alphabet numérique, consultez notre page alphabetnumérique.com. Dans un instant, on retrouve Alain Lévy, fondateur de Weborama, pour parler de la politique des données, la bataille mondiale des données. Juste après, José González, With the Ink of a Ghost, en gros, avec l'encre d'un fantôme.
Said seen trudging through the mist, following the creeks, erasing dim lines on the list. Eager to arrive, leaving footprints in the clay. Rocks and vines, telling indigo from grey, telling indigo from grey. Scattered trace of light, under screens in the air. All berries in the tree.
Magnifique, With the Ink of a Ghost, avec l'encre d'un fantôme, c'est le nom de ce titre, extrait du nouvel album du chanteur folk José González, qui, contrairement à ce que pourrait laisser entendre son nom et le timbre même de sa guitare, ne vient pas du monde hispanique, mais de Suède. Quoique, il est né à Gothenburg, certes, de parents qui, eux, ont fui la dictature argentine dans les années 70. Sa musique puise d'ailleurs ses influences aussi bien du côté de João Gilberto que de Chet Baker, d'Ali Farka Touré ou encore de Simon & Garfunkel.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Je reçois jusqu'à 20h Alain Lévy, fondateur de Weborama, une société spécialisée dans l'analyse des données. Et ce qui nous amène à deuxième partie d'émission, consacrée essentiellement à cette politique des données, cette bataille aussi mondiale des données. Et puis on reviendra sur la souveraineté des données, puisque c'est aussi le sujet. Alors vous êtes ingénieur de formation, et il le faut sans doute parce que c'est assez technique notre sujet ce soir, mais on va essayer de l'expliquer simplement. Vous l'avez dit un peu et rapidement en début d'émission, on a plus le temps maintenant. Vous avez trois métiers, on va peut-être les prendre l'un après l'autre. Et pour commencer, puisque tout tourne autour de la donnée, si j'ai bien compris, vous allez chercher les données, ensuite vous les analysez et donc vous en proposez à des entreprises, des intermédiaires au fond, puisque c'est un peu du B2B ce qu'on appelle, c'est-à-dire entre business, hein, c'est pas directement grand public. Vous leur permettez d'avoir une stratégie, une offre, une connaissance des données qui va permettre ensuite d'améliorer leur business. Alors commençons par la première étape, vous allez chercher ces données. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des données ?
Alors, il y a deux types de données. Hein. Lorsqu'on travaille avec une entreprise, il y a les données qui appartiennent à l'entreprise et il y a les données qui sont en dehors
sur
de l'entreprise,
le web,
qu'on appelle les données tierces.
Alors, donc, vous allez travailler pour l'entreprise, elle va vous autoriser à regarder ces données, par exemple, et à les analyser?
Oui, alors le premier challenge, c'est de travailler avec les données de l'entreprise qui viennent essentiellement de trois sources. Les données qui proviennent de son site, les données qui proviennent des campagnes publicitaires qu'elle fait sur le web. À chaque fois que quelqu'un est exposé à une publicité, qu'il clique et qu'il fait une conversion derrière, tout ça, c'est des informations dont dispose l'entreprise. Et puis, il y a les données sur ses clients, ce qu'on appelle le CRM, donc l'information...
CRM, Community...
Customer Relationship Management.
Management.
Oui, donc on essaye d'analyser l'ensemble de ces données pour essayer de définir avec l'entreprise des scénarios. Par exemple, envoyer une pub à une personne qui est client, typiquement pour un opérateur télécom, ben on va pas faire la même campagne pour quelqu'un qui est déjà mon client. Je vais pas lui envoyer la campagne abonnez-vous pour 12 € alors que je paye 30. Et des choses comme ça. C'est la base, mais c'est ça. Alors à côté de ça, donc ça c'est les données de l'entreprise. Il y a les données qui sont les données que Weborama apporte et qui sont des profils des internautes. On a 500 millions de profils aujourd'hui européens qui sont définis selon des critères comportementaux. Alors on récupère ces données à travers des partenariats qu'on a avec un grand nombre de sites et qui nous donnent la possibilité de déposer des cookies.
Donc le cookie, c'est un petit espion, pour le dire simplement, qui va regarder ce que vous faites lorsque vous allez sur tel ou tel site.
Oui, le cookie est extrêmement passif. C'est simplement un ce qu'on appelle un ID, donc un identifiant. D'accord ? Donc il a aucune intelligence, il sait rien faire du tout, mais simplement, quand on sait le reconnaître de site en site. D'accord. Donc ça, c'est ces cookies qui représentent les internautes.
Donc vous placez des cookies ?
On place des cookies.
Et combien vous en avez ?
500 millions.
500 millions.
En Europe.
C'est un beau cheptel.
C'est un beau cheptel, oui. C'est pas mal. C'est la plus large, la plus grosse base de données en dehors des Américains, en Europe.
Il y a d'autres techniques, le crawling par exemple, vous avez d'autres manières d'aller chercher les données sur le web ?
Absolument. Le cookie donc concerne l'internaute. Le crawling permet d'aller chercher des contenus.
Ça, vous allez donc, comme Google, vous allez
comme Google. On a des robots qui vont récupérer le contenu des pages web, donc les mots, et on travaille avec les mots. Ensuite, on a des algorithmes qui nous permettent d'analyser la relation entre les différents mots, et on apprend à créer des familles de mots qu'on appelle les clusters, et donc on organise le contenu du web pour faire ce qu'on appelle une taxonomie.
Donc c'est pas seulement des mathématiques, c'est aussi presque du langage.
Absolument, tout ce qu'on met en œuvre.
De la classification, de genre, de sous-genre, en cluster, comme vous le dites.
Donc on a des linguistes, des mathématiciens, des informaticiens, il y a de l'intelligence artificielle, il y a tout ça qui est mobilisé.
Donc tout ça servant à faire parler les données, il ne suffit pas de les avoir, il faut les interpréter, sinon elles ne servent à rien.
Exactement, une donnée toute seule n'a aucune valeur.
Donc vous allez chercher les données, le crawling c'est... Donc on va aller... Comment ça marche d'ailleurs le crawling ?
Le crawling c'est des robots qui vont interroger les sites et qui disent bonjour, est-ce que je peux entrer ? Certains sites ouvrent la porte, d'autres non.
Et tout ça est encodé bien sûr.
Tout ça est encodé, c'est les machines qui parlent aux machines. Une fois qu'on dit oui vous pouvez venir, le robot vient... Nous, l'information qui nous intéresse, c'est pas le site sur lequel on se trouve, c'est pas la fréquentation, c'est pas ce que fait Google. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le contenu, c'est les mots qui sont sur les pages. Donc, on récupère tous les mots. Et donc, on classifie l'ensemble des mots du web, d'une langue, du français, de l'espagnol, du hollandais, du russe, etc.
Combien vous avez de genres ou de sous-genres, en l'occurrence, que vous appelez les clusters ?
On a environ 200 clusters par pays.
Par exemple, un cluster, ça serait quoi ?
Un cluster, ça peut être foot. Ça peut être automobile occasion, ça peut être outdoor, c'est les sports extérieurs, etc.
Donc tout ça va vous permettre ensuite de proposer aux entreprises, aux agences de publicité, à d'autres, un certain nombre de campagnes qui vont pouvoir être ciblées puisque vous connaissez ce qui intéresse les internautes sur lesquels, les sites desquels vous avez posté des cookies, pour le
Alors,
dire simplement.
C'est pas exactement ça qu'on fait. C'est-à-dire que lorsqu'on a nos profils, on va compléter les données de nos clients avec nos données, de manière à ce qu'il ait une vision complète de son consommateur ou de son prospect. Et à partir de là, on va définir des scénarios pour voir quels sont les profils qui sont les plus susceptibles de répondre favorablement à une offre, quels sont les profils qui sont les moins susceptibles, et donc on va pas communiquer à destination de ce type de profil, etc. On construit des scénarios avec nos clients.
Vos clients, c'est par exemple des assurances, des...
Oui, les automobiles, les assurances,
AXA, Renault,
des journaux, des médias, Bouygues Télécom, les Échos, Le Monde, etc.
Ça pèse combien de chiffre d'affaires pour votre boîte, tout ça?
C'est 26 millions d'euros en 2015.
Et combien de salariés à peu près?
Nous sommes 220 dans 8 pays et on couvre 30 pays.
Emmanuel Paquette?
Oui, on voit aujourd'hui que la consommation se fait de plus en plus sur des tablettes ou des smartphones, et notamment via des applications. Et on sait très bien que les cookies ne fonctionnent pas dans cet environnement-là. C'est-à-dire quand un internaute regarde une information sur une appli, la ferme et va sur une autre application, il n'est pas suivi dans ce cas-là. Donc comment vous faites, puisqu'aujourd'hui c'est massivement, les gens utilisent ce genre de... Ce comportement aujourd'hui pour lire de la presse, pour s'informer, même pour faire du commerce. Comment vous arrivez à suivre l'internaute dans cet environnement-là?
Alors, c'est un des enjeux technologiques majeurs de l'année en cours. Alors, effectivement, on se rend compte qu'il y a plusieurs terminaux par individu, et la consommation sur mobile, elle est en partie sur le web, ce qui est exactement la même logique, et en partie sur les applications, qui est une logique différente. Alors, on peut pas poser de cookies, mais on peut quand même, il y a des identifiants qui existent, c'est ce qu'on appelle les SDK. Et le gros enjeu, c'est de pouvoir coupler les deux types d'identifiants.
C'est quoi un SDK exactement? Chaque téléphone a son identité, c'est ça?
Ouais, c'est au sein de l'application, c'est une négociation, une discussion que vous avez avec l'application pour c'est un protocole d'échange d'informations. Et donc on doit pouvoir effectivement réconcilier les informations qu'on peut récupérer au sein des différents terminaux pour pouvoir avoir un seul identifiant commun à tous ces terminaux.
Et techniquement, c'est possible quand même.
C'est les enjeux de l'année à venir. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut récupérer à travers les applications.
Vous êtes à cheval sur deux marchés, notamment tout ce qui est le data advertising, c'est-à-dire la publicité à partir des données. Là, c'est un marché assez déjà juteux, connu, mature. Et puis, toute la stratégie autour des données, la stratégie à partir des données, secteur qui est en progression pour le coup et qui va peser, selon vous, sommes importantes dans le marché à venir?
De mon point de vue, c'est l'enjeu considérable des années à venir, mais pas simplement au plan du marché digital, au plan au niveau économique mondial. C'est-à-dire que les entreprises sont en train de changer leur stratégie pour mettre la data au cœur de leur modèle. On change de marketing. Pendant 50 ans, on a fait un marketing qui était centré sur la marque, qui disait « Regardez comme je suis fort, puissant et belle, venez à moi ». Maintenant, c'est un marché centré sur le consommateur. Et donc, c'est changement des organisations, des entreprises, enjeu économique considérable. Donc, c'est un enjeu majeur.
Crucial.
Qui est largement plus important que le data advertising.
Pour ce qui est des entreprises, donc au fond, ces données ont une valeur très importante, diriez-vous?
À considérable. C'est-à-dire que ce qu'on construit, c'est l'actif data de l'entreprise.
Donc ça veut dire que ça peut être une valorisation, une goodwill, comme on dit?
Absolument, absolument. On a créé le brand goodwill, la valeur de la marque au cours de ces dernières années. Il est vraisemblable, et c'est en tout cas ce que dit le patron de Procter & Gamble aujourd'hui, que la valeur des data, le data goodwill, sera plus important. Quand on sait que la marque Apple, par exemple, vaut 170 milliards de dollars, Google 120... Oui.
Là, on est sur les entreprises numériques. Sur une entreprise qui ne le serait pas, c'est vrai aussi?
Louis Vuitton, 22 milliards de dollars. AXA, 10. Danone, 9.
Sa valeur en données, toujours.
Ça, c'est la valeur de la marque. Et on pense que la valeur de la data va le dépasser, même et surtout pour ces entreprises-là.
Si on prend un exemple comme Les Échos, puisque vous travaillez avec Les Échos, qui est un journal qui devient une sorte de data journal, qu'est-ce que vous pouvez faire, sans rentrer dans des détails qui sont privés, évidemment, entre vous et eux, qu'est-ce que vous pouvez faire pour un média comme celui-là, par exemple?
Ben là, typiquement, Les Échos souhaitent que la data soit impliquée dans le pilotage de l'ensemble de ses activités. C'est-à-dire que grâce à la donnée, on va pouvoir optimiser les revenus publicitaires en envoyant des pubs aux bonnes cibles, etc. On va pouvoir aussi piloter les abonnements en trouvant les profils qui sont les plus susceptibles de s'abonner et ceux qui sont les plus susceptibles d'être fidélisés. Et puis, on va également gérer dynamiquement les contenus. C'est-à-dire qu'en fonction du profil de l'utilisateur, on va pouvoir ajuster le contenu qu'on lui propose.
Entre le recueillement des données, ce que vous faites, on l'a dit, à travers des outils, des logiciels, etc., et leur proposer des conclusions, il y a toute cette interprétation, cette analyse des données. C'est un travail fait, vous l'avez dit, par des ingénieurs, par d'autres aussi. Comment faire parler les données? Comment faire en sorte qu'elles disent quelque chose? Sinon, ça ne sert à rien d'en avoir. Est-ce qu'on est assez bon sur les données, ce qu'elles disent? Est-ce qu'on peut passer à la prédiction facilement?
Ah oui, tout à fait, tout à fait. On est capable de dire avec une précision très très fiable de quel pourcentage on va améliorer la performance d'une campagne en ciblant une famille d'internautes. Donc on est aujourd'hui très précis dans ce type d'analyse. Et je pense que sur ce secteur-là, la donnée a fait ses preuves au cours des dernières années.
Emmanuel Paquette.
Oui, on voit un mouvement de fond arriver depuis maintenant plusieurs mois. C'est des internautes qui utilisent des systèmes de blocage d'affichage des publicités, ça s'appelle des adblocks. C'est des logiciels qui sont gratuits, qu'on installe assez facilement dans son navigateur. Et alors, vous pouvez étudier tout ce que vous voulez d'un internaute, de ce qu'il peut aimer ou pas aimer. S'il met un bloqueur de publicité, de toute façon, la publicité ne s'affiche pas sur le site. Autre avantage, le site s'affiche beaucoup plus rapidement, puisqu'il n'y a pas de publicité à charger. Et donc, ça devient un phénomène tel qu'aujourd'hui, tous les annonceurs sont en train de se réunir pour voir s'ils n'ont pas été un peu trop loin dans la publicité, s'ils n'ont pas été...
Publicité trop intrusive, trop longue,
etc. Vous, si on reste en l'état et si cette tendance continue, tout votre modèle économique va tomber à l'eau, puisque ça ne servira plus à rien même d'analyser les internautes s'ils ne veulent même pas voir la publicité qui s'affiche devant eux.
Oui, je pense que c'est précisément l'inverse qui va se passer. Mais tout d'abord, les ad-bloqueurs... il m'arrive de donner des cours, d'intervenir lors de cours, et je vois que les jeunes en particulier, non seulement sont très utilisateurs, mais en plus sont assez fiers d'utiliser un adblock. Ils ont le sentiment que c'est quelque chose d'un geste militant. Et puis après, je leur pose deux questions. La première, c'est comment vivent les médias que vous lisez et dont vous êtes très heureux de les lire gratuitement? C'est la publicité. Si vous bloquez la pub, vous les empêchez de vivre. Et donc, est-ce que vous êtes conscient de ça? Le deuxième, c'est est-ce que vous connaissez le modèle économique des adblockers? Les adblockers, ils négocient, notamment avec Google, par exemple, pour laisser passer la pub de Google, mais pas celle des autres.
Moyennant rémunération. Ouais.
Moyennant rémunération. Il y a récemment un adblocker qui s'est vendu, on ne connaît pas les prix, mais très cher. Donc, ce sont des gens qui sont assez sauvages et qui instituent leur propre péage à certains endroits. Maintenant, le fond du problème, c'est effectivement que la publicité a dépassé toutes les bornes, en particulier sur le mobile, en particulier sur les sites de streaming, et puis sur tout ce qui est...
Donc il faut réguler, il faut remettre un peu d'ordre dans tout ça?
Oui, on est allé beaucoup trop loin. Autant on a été très bon, je pense, en tant qu'interprofession pour réguler les aspects de respect de la vie privée, autant sur les aspects publicitaires, on a été très mauvais. Et on a laissé les choses dériver. Aujourd'hui, il faut intervenir là-dessus. Comment? Certainement en travaillant sur la donnée et en étant beaucoup plus parcimonieux sur la publicité, mais en étant plus efficace avec le bon format, pour la bonne personne, dans le bon contexte, au bon moment. Donc moins de pubs, plus ciblés. Je pense que les internautes sont ravis d'être ciblés en tant que consommateurs. Ils sont pas du tout heureux d'être ciblés en tant que citoyens, ce qui nous amène au sujet de la souveraineté des données. Mais la data et la gestion des données, que ce soit pour les publishers, pour les annonceurs ou pour les internautes, c'est quelque chose qui va favoriser un meilleur écosystème. C'est une question de développement durable que vous posez là.
Vous avez écrit, Alain Lévy, un ouvrage intitulé « Sur les traces de Big Brother ». C'était en 2010, en un mot, ce livre.
C'était une réflexion sur l'impact de l'ère numérique sur la vie privée. À l'époque, Google et Facebook étaient extrêmement agressifs dans leur position sur ce sujet-là. Google disait « si vous voulez pas qu'on suive ce que vous faites sur Internet, eh ben n'allez pas sur Internet ». Et Facebook disait « bon, la vie privée, c'est un sujet du XXe siècle ». Depuis, les choses ont beaucoup évolué et il paraît important de se poser quelques questions sur quels sont les impacts des technologies digitales sur notre vie.
Sur les traces de Big Brother, c'était ça le titre. Merci. Du livre.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
J'ai usé de ma situation de privilégié au sein même du parti intérieur pour fausser et trahir la vérité à tout moment et pour suggérer en toute occasion que notre allié traditionnel est l'Estasia, alors qu'elle est en fait notre ennemi mortel.
4 avril, 1984.
Position de chef de planification d'usine.
Je crois.
M'a permis de voler des plans militaires et de les revendre en tirant un vaste profit aux dirigeants eurasiens.
Au passé.
J'ai été.
Au futur.
Un essai d'opération de détournement.
À un âge où la pensée va libre. Du fond de l'âge de Big Brother, du fond d'une ère de la police de pensée,
j'ai assassiné de nombreux collègues,
du fond d'un homme mort.
En réunissant de faux documents contre
salut.
Un extrait du film, vous l'aurez reconnu, 1984, d'après le roman bien sûr de George Orwell. Car nous allons terminer cette émission en parlant du roman Le Cercle. En anglais, son titre original était The Circle. Le livre est signé Dave Eggers et ce roman paru aux États-Unis en 2013 est seulement sorti depuis ce vendredi chez Gallimard en français. Il y a des livres qui sont d'une certaine manière en avance sur leur temps et qui finissent par être en retard lorsqu'ils paraissent en traduction. C'est un peu le cas de The Circle, livre prémonitoire paru au moment de l'affaire Snowden, ce qui en a fait d'ailleurs un best-seller aux États-Unis. Le livre annonçait ainsi l'âge de la surveillance de masse et à travers l'application SeaChange et la mini-caméra Lollipop qui sont dans ce livre, il annonçait Periscope, Mercat, c'est-à-dire les vidéos en live streaming continu, mais aussi le phénomène GoPro, ces mini-caméras passe-partout. Traduit seulement en avril 2016, tout cela apparaît un peu daté déjà, mais le livre reste passionnant, notamment à travers la figure de Mae Hollande, l'héroïne, une jeune fille qui a travaillé dans les industries traditionnelles avant d'arriver dans le cercle, hein, c'est-à-dire au fond chez Google, où tout lui apparaît comme une véritable renaissance. Il y a là des mobiles de Calder et d'efficaces services de community experience, c'est là où elle travaille, qui place le consommateur au cœur de la stratégie. On sait tout du consommateur, on sait tout d'ailleurs des employés aussi du cercle. Peu à peu, l'utopie tourne d'ailleurs à la dystopie et le slogan n'est plus comme chez Orwell « Big Brother is watching you », mais « The world is watching you », c'est-à-dire que tout le monde contrôle tout le monde. Le cercle montre donc la face cachée de la Silicon Valley, sa face sombre, le revers de la médaille en quelque sorte d'un monde technologique rêvé et qui se réveille avec la gueule de bois dans la pré-Snowden. Ce roman est celui de la sortie de l'âge de l'innocence. Quant au numérique, il est signé Dave Eggers et il paraît chez Gallimard ce week-end. Emmanuel Paquette, vous l'avez lu, ainsi que nos invités. On commence par vous.
Oui, alors moi je suis un tout petit peu gêné par l'ouvrage parce que effectivement c'est une dystopie comme vous le disiez, hein. L'idée est donc de démontrer que les technologies actuelles dans The Circle, enfin le cercle, la société qui s'appelle le cercle, qui en réalité en fait pas que Google, c'est un mélange de Google,
et de Facebook,
puisqu'elle est puissante dans tout, c'est un fournisseur d'accès qui est omnipotent.
C'est aussi Periscope, etc.
C'est un peu le mélange de tout ce qui existe aujourd'hui et de voir un peu la puissance qui pourrait se dégager d'une telle entreprise. En revanche, ce qu'essaie de la démonstration donc de l'auteur, c'est de dire à force de vouloir trop de transparence, on arrive à un état totalitaire. Et ça, du coup, en creux, on peut lire quand même une critique des révélations de Snowden qui va trop loin dans ce qu'il a pu dire. On lit aussi en creux une critique de Julian Assange qui d'ailleurs est cité dans le livre pour avoir trop parlé, trop dit. Donc ce qui me gêne un tout petit peu dans cet ouvrage, dans cette dystopie, c'est aussi de dire la transparence au maximum et nous confine à une société totalitaire et en ce qui peut se concevoir, mais en même temps essaye de dire que laisse passer quelques messages sur ces lanceurs d'alerte qui de temps en temps peut-être ont donné peut-être un peu trop d'informations sur la transparence des États, sur la transparence des puissants, et c'est ce qui me gêne un tout petit peu dans cette ouvrage.
Sylvain Attal, vous êtes directeur adjoint de France 24, en charge notamment de Mashable, le site français, la version française du site Mashable qui a été lancé ce mois-ci. Vous avez lu aussi ce livre?
Je viens de le commencer, mais je vois bien où ça veut nous emmener. Je
pense au début, tout va bien dans le livre.
Oui, mais je vois bien que ça va pas durer. Oui, effectivement, mais c'est ce qui est bien avec la littérature, parce que c'est notre grand cauchemar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on se rend bien compte de la puissance de ces GAFA.
C'est-à-dire Google, Apple, Amazon, Facebook, etc. Amazon.
Là, dans le livre, apparemment, ce serait une société qui aurait réussi à les avaler toutes. Donc, c'est encore plus impressionnant. Et la question c'est pour l'instant, on a affaire à des good guys, c'est-à-dire des gens qui disent on n'a pas d'agenda caché.
Des gentils.
Des gentils, on va vous aider.
Ils sont pas si gentils que ça, mais voilà.
Pour l'instant, ça semble
vrai, mais à notre tout petit niveau, est-ce qu'on peut vraiment...
Je pense que ça semble déjà pas totalement vrai, mais bon,
mais ça peut ne pas durer, et c'est effectivement le cauchemar qui se dessine derrière tout ça.
Alors, Alain Lévy, vous êtes fondateur de Weborama. Au fond, vous avez créé le cercle. Vous êtes vous-même le cercle. Vous espérez juste être un plus gros cercle. Vous avez lu ce livre aussi.
Oui, absolument. Il y a trois points, moi, qui m'ont intéressé dans le livre. Le premier, par rapport à 1984, c'est la manière dont les choses s'effectuent. C'est-à-dire que 1984, c'était vraiment une surveillance absolue. Là, on fait en sorte que les gens dévoilent tout d'eux-mêmes.
Et aient envie eux-mêmes de se...
C'est ça. Ils ont envie, ça devient un challenge.
Et d'ailleurs, l'héroïne, elle veut pas. Quand son amant monte sur scène pour décrire ce qui se passe sur leur compte, elle part, elle est furieuse.
C'est le début. Et puis petit à petit, ça change. Et donc, on explique, et c'est une des valeurs qui est poussée, c'est « privacy is theft ».
C'est du vol, la vie privée.
Quand on veut protéger sa vie privée, en fait, on vole ses amis de tout ce qu'on pourrait leur apporter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la transparence. C'est intéressant parce que c'est ce que vous avez dit Emmanuel Paquette. Et c'est exactement... Moi, c'est un terme qui me gêne, le terme de transparence. Et avec ce livre, je comprends exactement pourquoi. C'est-à-dire que c'est détaillé, on va jusqu'au bout du truc. Le troisième point qui est intéressant, c'est les limites de la culture de la métrique. C'est-à-dire que notre métier, on en a parlé tout à l'heure,
de mesurer les données,
c'est de tout mesurer, etc. Et on voit évidemment, on le sait, mais c'est vrai que là, et c'est fait de manière assez amusante, ils appliquent les mesures, toutes les technologies qu'on utilise sur la data, ils l'utilisent sur les hommes. Et donc il y a un taux de conversion pour les hommes, il y a l'équivalent du page rank qui s'appelle le participation rank pour les hommes. Donc plus on participe et plus on a de points, et les gens sont là en train de courir comme des poulets sans tête pour optimiser leurs points.
Voilà, le livre s'appelle Le Cercle, il est signé Dave Eggers, il vient de sortir chez Gallimard. Parce que 19h57, on se quitte avec Steve Gunn, nouveauté également, Conditions Wild, et on en reste là pour ce soir. Merci infiniment à Alain Lévy, fondateur de Weborama, société donc spécialiste dans l'analyse des données, le monde des données. Sylvain Attal pour Mashable France. Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express. Vous pouvez vous abonner à nos deux podcasts, Soft Power et l'Alphabet Numérique, sur le site franceculture.fr. Cette émission a été préparée ce soir par Mathilde Wagman, David Lavaux était aux réseaux sociaux et Jean-Frédéric à la régie, ainsi que d'ailleurs Edouard Rubenstein. Ils étaient deux ce soir dans cette émission. Soft Power, une émission de Frédéric Martel réalisée par Perret Legras. Dans un instant, vous allez retrouver Charles Danzig. Ce sera Secret Professionnel à partir de 20h sur France Culture. Je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.